Vous êtes sur RTL.
Parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous sommes donc avec Elias qui a 28 ans. Merci Christelle et bon week-end.
Bon week-end.
Elias, vous ne serez pas confiné ce week-end. Profitez-en, c'est peut-être le dernier.
Oui, cher. J'espère bien que non.
Parce qu'à Paris, ça peut nous pendre au nez.
Ce n'est qu'une hypothèse, je vous le rappelle.
Exactement. Elias, vous habitez donc Toulouse. Je vois que vous êtes pilote d'ailleurs. Vous êtes pilote.
Ouais.
Pilote
de... Je suis pilote privé.
Pilote, pilote d'avion.
Ouais.
D'accord. Bon, c'est un beau métier. Exactement. C'est assez.
Ah ben,
ça fait rêver.
Le secteur s'en prend plein les dents.
Tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait rêver un pilote de ligne ou pilote.
En effet, oui, bien sûr.
Mais c'est pas le sujet. Quel est votre sentiment sur la période que nous vivons et sur les reconfinements annoncés?
Bah écoutez, moi je suis au départ j'étais pour parce que je suis enfant de couple de médecins. Et ma sœur, mes deux sœurs sont également médecins radiologues, donc mes parents également. Au départ, j'étais comme tout le monde, voilà, Covid, c'est dangereux, c'est bien de prendre ses distanciations et tout. Maintenant, je réalise qu'il y a énormément d'incohérences dans ce qu'on fait et ce qu'on nous annonce et ce qu'on nous oblige de faire. À la base, on nous dit bon, le confinement sauve. Et le confinement, c'est un peu ce qu'on peut utiliser quand on peut rien utiliser de plus pour ne pas qu'il y ait de l'affluence au niveau des hôpitaux. Bon, ben alors où sont les moyens surmis en place pour les hôpitaux?
Et c'est une discussion que nous avons depuis un an. Et effectivement,
déjà
c'est la tension dans les hôpitaux qui force à ces mesures-là. Pour le reste, l'épidémie, elle a sa propre gravité.
Oui.
Mais c'est manifestement pas l'épidémie qui fait fermer ou qui fait confiner. C'est la tension sur les hôpitaux. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis un an.
Bien évidemment.
On tourne en rond.
Non, mais bien évidemment. Mais à côté de ça, le personnel des hôpitaux n'a pas dit « Ah non, on est bien pris en charge, tout va mieux pour nous ». Il crie depuis tout ce temps-là.
Mais
j'imagine
parce
que
qu'ils
vous
voient, et c'est normal, cette épidémie à l'aune de leurs difficultés quotidiennes.
Très bien. Mais maintenant, pour quelles raisons on n'augmente pas les capacités
c'est
de
une
tous
bonne
les
question.
Hôpitaux?
C'est une bonne question. On nous dit que c'est pas possible. On nous dit qu'on
ne
peut pas.
Bon, ben, c'est pas possible, mais c'est possible.
On nous dit qu'on peut pas doubler le nombre de lits en réanimation, ou en tout cas, sinon doubler, du moins augmenter. On n'arrive même pas à savoir si c'est 8 000, 9 000, 6 000. Olivier Véran avait promis 14 000 au printemps dernier. Ces 14 000 ne sont jamais arrivés.
Bien évidemment. Mais il y a aussi autre chose. Quand on s'intéresse à ces moyens-là qui sont mis en place pour justement ne pas avoir de soucis au niveau des hôpitaux, etc., etc. Eh ben, aujourd'hui qu'on parle de vaccination, on nous fait limite une propagande de la vaccination, c'est ça ce qui sauve, on va tous se faire vacciner, etc. Ben, ça sert à quoi de reconfiner des gens dans plein de zones si les vaccins sont disponibles? J'imagine que la France, c'est quand
Mais
même...
Mais on n'est qu'à 4% de vaccinés? Elias, c'est aussi un des problèmes que nous avons. Le Royaume-Uni est à 26, l'Amérique à 14, Israël est à 51 et toute l'Union européenne est autour de 4. Ouais. Allemagne, Espagne, Italie, tout ça, ça varie entre 3,90 et 4,10, 4,20. C'est-à-dire que c'est
là,
aussi
donc,
la faillite de l'Union européenne dans cette campagne de vaccination.
Non, mais là, on se retrouve dans une situation quand même extraordinaire où on nous dit la solution, c'est le vaccin. On a le vaccin, mais les gens vont aller se confiner.
Bah, avec 4% de gens vaccinés, c'est pas grand-chose.
Eh ben, j'en sais rien, moi. Ça, c'est le problème du gouvernement. Et encore une fois, on retombe dans ce qu'ils sont aptes à faire ou pas aptes. Si
là, visiblement, on a voulu acheter des vaccins moins chers. Enfin, tout ça est assez compliqué.
Mais manifestement,
c'est aussi un échec, disons-le. C'est-à-dire que la campagne de vaccination a commencé le 1er janvier. On est fin février, il y a deux mois, 4% de la population est vaccinée. Le Royaume-Uni en est à 26. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu voudrais tuer l'Union européenne? Tu t'y prendrais pas le
train? Écoutez, Pascal Pro, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet et je vais essayer d'aller vite. Tout d'abord, on a les moyens des hôpitaux qui n'ont jamais été renforcés considérablement comme les hôpitaux, comme le personnel des hôpitaux le voulait. Deuxièmement, on nous parle de vaccination. On nous dit, voilà, c'est le vaccin, c'est pas la chloroquine, machin. On interdit la chloroquine, on met le vaccin, on nous dit, voilà, c'est comme ça. On retombe dans l'histoire de quand est-ce le vaccin va venir, enfin bref. La troisième des choses, l'incohérence qu'on a depuis le début par rapport au comportement du gouvernement concernant les masques, concernant...
Je suis d'accord avec vous, Elias, mais bon, vous nous faites un...
Ensuite, il y a encore quelque chose d'autre. C'est que ce qui sauve finalement les gens, de ce que j'observe, hein, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre de donner un diagnostic médical, mais moi ce que j'observe, c'est que ce qui nous sauve, ce n'est pas le confinement, c'est nos comportements. C'est nos comportements, en fait. On peut ne pas être confiné et garder une bonne distanciation de façon
à
ne pas...
Oui, Elias, mais cette maladie ne tue pas non plus comme d'autres virus, etc. Vous dites ce qui sauve les gens, c'est aussi que ce virus, on sait aujourd'hui précisément qu'il attaque en priorité les gens fragiles, les gens les plus âgés, etc. Donc, faut aussi raison garder sur la létalité, la gravité de ce...
Comment ? C'est tout le problème alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre en fait. Ça veut dire qu'on est en train de peser des choses et...
Les services hospitaliers sont en tension, donc on confine. Voilà, on ne sort pas de cette problématique depuis un an. Elias, en tout cas. Et ça va continuer, mais c'est ça
merci
qui...
Merci bien.
Mais non, merci à vous surtout. 13h10, je salue Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
Fernandel, ça fait 50 ans aujourd'hui qu'il est mort.
Ouais.
D'abord, il est mort jeune, hein, 68 ans, comme Bourvil. Bourvil avait 53 ans, très jeune Bourvil. Mais c'est toujours frappant de voir cette génération, combien les gens partaient assez tôt. Jean Gabin est mort à 72 ans, Jean-Pierre Melville avait 55 ans. Bon, il est moins présent, Fernandel, par exemple, que De Funès ou Bourvil. Donc c'est peut-être une manière de le réhabiliter aujourd'hui. Et on écoutera quelques petites chansons.
Ça m'étonne d'ailleurs, en ayant Elias, que vous n'ayez pas fait... Ignace.
Ah bah Ignace, oui. Par exemple.
Mais Elias, je sais de faire une imitation, mais c'est...
Vous imitez, moi.
Bah, aussi mal que vous, je pense.
Ignace, écoutez.
Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes...
C'est génial. Alors on va écouter du Fernandel jusqu'à 14h30, et si vous êtes sage, je vous imiterai Fernandel dans Félicie aussi.
Ah bah je vais pas être sage du coup.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je salue Laurent Tessier en ce vendredi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 20 départements sous surveillance renforcée. Ils pourraient suivre l'exemple du littoral des Alpes-Maritimes et de Dunkerque avec un confinement local à partir du week-end du 6 mars. Est-on en train de perdre du temps ? Fallait-il prendre des mesures dès maintenant plutôt que d'attendre une semaine ? Est-ce la bonne stratégie ? Un pari risqué ? L'infectiologue Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, était l'invité de RTL ce matin.
On a l'impression que c'est vraiment reculé pour mieux sauter.
Et que de blabla pour tirer sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On passe notre temps à attendre des décisions. Mettez tout de suite plus de moyens techniques et humains pour vacciner. On tourne en rond, s'énerve Thierry. À quoi ça sert d'attendre une semaine pour confiner localement d'autres départements ? Gabriel, sur nos réseaux sociaux, n'y comprend plus rien. Entre l'avis des politiques, des scientifiques, merci d'être plus clair dans les jours à venir. Et Lauriane souhaite un confinement strict pour tout le monde, qu'il dure 2 semaines, 1 mois ou plus. Et après, j'espère reprendre une vie à peu près normale.
Et je salue Erwan qui est avec nous, qui habite la Seine-et-Marne. Bonjour Erwan.
Bonjour Pascal.
Je rappelle que lors de leur conférence de presse hebdomadaire, Jean Castex et Olivier Véran ont fait le point sur la situation épidémique du pays ce jeudi. Pas de nouvelles mesures restrictives annoncées, vous le savez, mais 20 départements ont été placés sous surveillance renforcée.
Alors, il y a quelque chose que vraiment qui m'étonne, en fait, c'est que... aujourd'hui, on nous dit, voilà, il y a plein de départements qui sont sous surveillance renforcée. On sait que, on a entendu que sur Paris, 50% des tests positifs au Covid étaient dus aux variants, ce qui est énorme. Et on se dit aujourd'hui, le feu est là. Et on laisse le feu. On laisse.
Non, mais c'est cette notion de feu. Pourquoi vous dites le feu ? C'est ça qui.
Alors, quand je dis le feu,
c'est quoi le feu pour vous ?
C'est quoi le feu ? C'est qu'aujourd'hui, ça paraît quand même aberrant, qu'on sait que de toutes les façons, les chiffres réaugmentent. On sait aujourd'hui qu'il y a une dizaine de départements, à l'inverse, il y a encore une semaine, voire 15 jours, on ne parlait que de Nice et on parlait que de Dunkerque. Aujourd'hui, on est à 10 départements. Donc c'est-à-dire que ça progresse fortement.
Mais j'entends bien, par exemple, le taux d'incidence à Paris, il est de 300 pour 100 000. Concrètement, est-ce que vous savez combien de gens sont contaminés chaque semaine dans Paris, en pourcentage ?
Alors, en pourcentage, mais effectivement...
Ça m'intéresse, parce que, est-ce que vous le savez ?
Non, je ne...
À votre avis,
À mon avis, pour 100 000 habitants.
Non, non, mais en pourcentage, je veux dire, sur 100 personnes, parce qu'on parle toujours des chiffres, je pense que les gens sont perdus dans les chiffres.
Pas,
combien
pas,
de gens, à votre avis, à Paris, quand il y a un taux d'incidence de 300 pour 100 000,
oui.
combien de gens sont contaminés en une semaine?
Je ne sais pas, je vais vous dire... C'est de l'ordre de 0,5...
C'est ça, c'est 0,3% des gens qui sont contaminés.
Voilà.
0,3% des gens sont contaminés à Paris en une semaine.
Alors, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est que...
Donc si moi, je veux bien, vous me dites le feu. Et
oui,
sur ces 0,3% qui sont contaminés, évidemment, les cas graves ou les gens qui vont décéder, c'est... vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un drame, c'est toujours affreux, c'est toujours tout ce que vous voulez, mais ça reste 0,3% des gens contaminés, et les cas graves, évidemment, c'est... infinitésimal.
Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas, vous, là, vous êtes en train de parler que des gens qui pourraient décéder du Covid. Sauf que c'est pas ça que moi je vois en priorité. Ce que je vois en priorité, c'est que si on ne fait rien à l'instant T, et aujourd'hui, vous savez très bien que l'instant T, il est quand même dramatique. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une troisième vague. Et aujourd'hui, le personnel de la santé, ils sont épuisés, fatigués. Et je pense à ces gens-là, parce que moi, aujourd'hui, j'ai un travail où, entre guillemets, je suis en sécurité, où, comme vous l'avez dit si bien depuis toutes vos émissions, je travaille, j'ai mon salaire, le soir je rentre, je vois ma petite famille, j'ai une vie qui est contraignante.
Mais Erwan,
avec
si vous
COVID,
confinez, j'entends ce que vous dites, mais si vous confinez, vous freinez l'épidémie, mais ça repart dès que vous déconfinez.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'entendais votre interlocuteur qui parlait, qui disait « mais je comprends pas pourquoi on n'a pas eu les capacités de réanimation, d'augmenter les lits ou quoi que ce soit ». Le problème, il est que un respirateur, ça vaut combien? Je ne sais pas le prix.
Visiblement, ce n'est pas une question financière, c'est une question d'homme. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique.
C'est une question financière, Pascal Pro, vous le savez très bien. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que tout est une question financière. La capacité des lits, c'est une question financière. Le personnel hospitalier, vous ne l'avez pas. Donc c'est une question financière aussi de recruter des gens, d'avoir le personnel. Un confinement, s'il est retardé, c'est financier. C'est aujourd'hui, tout est financier, Pascal Pro. Tout est financier. Aujourd'hui, si M. Castex et M. Macron, notre président, n'a pas fait de confinement en février ou fin janvier, c'est pour des raisons strictement économiques.
Mais j'entends bien, mais ce qui m'intéresse moi dans votre témoignage, c'est qu'effectivement, comme depuis un an, tous les jours, toutes les semaines, il y a des communications qui sont alarmistes, vous venez, et je ne vous le reproche pas d'ailleurs, mais vous dites au bout d'un an, ben, il y a le feu, c'est dramatique. Vous-même avez intégré ces paramètres et on peut, les récuser d'une certaine manière. On peut en tout cas entamer une conversation en disant est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est si dramatique que vous le dites? Est-ce qu'il y a le feu comme vous le dites? Et c'est alors, ça qui me frappe dans cette conversation.
Eh ben, le problème, c'est que quand aujourd'hui on dit qu'il y a le feu. Alors, effectivement,
c'est vous qui le dites.
Non mais moi je le dis, il n'y a pas que moi, puisque j'ai repris même l'expression de Monsieur Gros Didier, qui est le maire de Metz, en disant il y a une semaine, c'est ses propos à lui, en disant je ne comprends pas, on a le feu dans la maison, les pompiers sont devant, mais on ne fait rien.
Lui c'est son choix, comme Karine Lacombe qui était là ce matin, comme Jean-François Delfraissy il y a un mois, qui nous expliquait qu'il fallait absolument reconfiner, puis un mois on attend toujours la vague dont il parlait, en tout cas sur le mois qui vient de s'écouler. Donc vous voyez, on peut remettre en cause la parole, forcément, des médecins et puis de tous, d'ailleurs.
Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut, quelque part, imaginer quand même, aujourd'hui, on dit, en France, nous avons un peu plus de 80 000 décès, certainement liés au Covid. Bon, imaginons qu'aujourd'hui, on arrive à dire, un an après que ça a démarré, 80 000 morts qui sont décédés certainement du Covid, avec toutes les mesures, les restrictions qu'on a imposées aux Français, mais si on n'avait rien fait, on serait à combien?
Mais je n'en sais rien, et voilà. Pour tout vous dire, personne n'en sait rien. Mais personne n'en sait rien. Et ceux qui disent que c'est 300 ou 400 000, je prends ça avec beaucoup de précautions. Voyez-vous, vraiment beaucoup de précautions, parce que aujourd'hui, la France est sous cloche. Couvre-feu à 18h et je m'aperçois que l'épidémie est toujours là. Donc, au fond, toutes les mesures qui sont prises dans le monde entier, aucune ne paraît vraiment efficace, sauf le confinement drastique, définitif, où chacun reste chez soi. Alors ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, là, s'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de virus. Mais à quel prix? En tout cas, merci Erwan. Il est 14h... Il est 14h, non Il est 13h20.
Vous êtes pressé de partir en week-end?
C'est peut-être le dernier week-end non confiné. Parlez pas de malheur, moi. Un petit Fernandel, parce que on a dit qu'on en parlerait dans la dernière partie, mais peut-on rythmer peut-être cette émission?
Qu'est-ce
que vous avez là,
Félicie?
Ah. Il faisait un temps superbe. Je me suis assis sur l'herbe, Félicie.
Alors ça, c'est pas la version du palmarès de Guilux.
Et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi.
En rentrant du bois de Boulogne, je rencontrais Félicie.
Félicie aussi.
C'est Frédéric Mitterrand?
Non. Allez, la pub, et on continue le dialogue. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Jérôme et avec Erwan, et puis aussi avec, pourquoi pas avec moi, parce que... J'ai un petit parti pris là-dessus. Ça ne vous a pas échappé quand même.
Ah, je vous trouvais plutôt neutre.
Ah, un petit parti pris quand même. En tout cas, une idée. Mais nous la confrontons aux auditeurs. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et je vous propose de faire un petit dialogue entre Jérôme et Paul. Jérôme est chirurgien dentiste. Il habite la Vendée. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes un pro-confinement ?
Je ne suis pas un pro-confinement. Non, je ne suis pas un pro-confinement.
Ah, je lis sur l'affiche que j'ai sous les yeux.
Un pro-confinement. Je suis un confinement, on va dire, territorialisé. S'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas de vaccin, s'il n'y a rien, là, effectivement, on peut éventuellement discuter. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est est-ce qu'il y a vraiment une notion de feu dans la maison?
D'accord. Alors bon, globalement, vous êtes, alors...
Pour le vaccin, pour la vaccination à vous.
Oui, mais on est tous pour la vaccination, là, a priori. Et puis en revanche, Paul, lui, est un anti-confinement. Nous sommes d'accord. Bonjour, Paul.
Bonjour, Pascal. Oui, je suis anti-confinement.
Eh bien, tiens, je vous donne d'abord la parole. Et puis, Jérôme et Paul, vous allez pouvoir échanger, pourquoi pas échanger des arguments. Paul, pour commencer.
Oui, moi je suis un anti-confinement parce qu'on voit que ça sert à rien. Je vais vous dire, dans ma vie, j'ai été dans beaucoup de pays où il y a eu beaucoup d'épidémies. Contre la nature, on a beaucoup de mal. Il y a une personne qui disait la vérité, c'est le docteur Raoult. Il disait, la science, on connaît 30%. 70%, on ne connaît rien du tout. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu jouer aux sorciers actuellement. Vous savez, le virus, il arrivera, on en aura d'autres. On en aura plusieurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas capable de soigner les gens. Ça, c'est grave. C'est pas le virus qui m'inquiète. Vous savez, j'ai 70 ans, je vis normalement, je travaille, j'ai des salariés, j'ai eu aucune personne malade, je touche du bois. Mais je vis normalement. Et
là, on soigne pas la grippe non plus, on soigne même pas le rhume.
Oui, non.
Donc, on soigne pas tout, hein.
C'est pour ça, j'arrive pas à comprendre comment c'est parti en flambée cette.
Bon,
cette
vous dites, Paul, vous, ça ne sert à rien. C'est ce que vous dites. Le confinement, ça sert à rien. C'est votre avis. Jérôme.
Les méthodes de grand-mère, ils savent. Hein. Vous savez, ma grand-mère, quand elle soignait, elle prenait un bol de lait chaud, elle mettait du miel et une goutte de rhum dedans, et elle nous soignait comme ça avec la grippe, quand on était jeunes.
Non, mais la grippe, il n'y a rien à faire. Donc, c'est formidable. Il y a juste à attendre, paraît-il. Bon, Paul, en tout cas, on a compris l'idée directrice. Et Jérôme, peut-être, vous répond sur ce thème. Le confinement ne sert à rien.
Ouais, alors moi, encore une fois, je suis pas un pro-confinement, loin de là. Hein. Si mes proches m'entendaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, je suis pas un pro-confinement. je suis au contraire, je suis pour la liberté. Après, il y a effectivement, quand on n'a pas de vaccin, quand on n'a pas de moyens de soigner les gens, je rejoins Paul, et qu'on n'a pas d'autres solutions, effectivement, on peut peut-être discuter à ce moment-là de faire du confinement, mais du confinement, intelligent, on va dire régionalisé, territorialisé, voire même quartier par quartier s'il y a besoin, quand c'est vraiment nécessaire.
Ça va être pratique si on confine la moitié d'une rue et pas l'autre, ça va être difficile.
Non, mais là où je veux aller dans le sens de Paul, pour aller dans ce que disait Paul, je pense, moi c'est mon avis personnel, la différence par rapport à nos grands-parents, moi j'ai que 46 ans, qui ont vécu effectivement d'autres pandémies, la grippe espagnole pour les plus anciens, la grippe de Hong Kong dans les années 60, etc. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'on n'accepte plus de mourir. On est dans une société aujourd'hui qui refuse en fait la mort. Et on le voit bien, et on voit de toute façon tout ce qui est fait avec les GAFA, etc., où on veut la vie éternelle. Aujourd'hui, en fait, on n'accepte plus de mourir. Donc si on n'accepte plus de mourir, on n'accepte plus non plus de laisser mourir des gens qui ont 90 ans. Et c'est un peu ce qui s'est passé là avec le Covid. C'est-à-dire que la population cible, vous l'avez dit, répété, ça a été maintes fois et maintes fois vu par des épidémiologistes. On est sur une moyenne d'âge à 84 ans en âge médian. on est sur des gens qui ont des comorbidités absolument incroyables, que ce sont des gens qui ont réussi à augmenter, à avoir une durée de vie plus importante que ce qu'elle n'aurait pu être effectivement s'ils étaient nés dans les années 20 ou dans les années 30. Donc c'est déjà un gain, on va dire, en espérance de vie. Et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est aussi la fierté de nos sociétés dites civilisées, occidentales. Mais il y a un moment, la nature est plus forte que nous. Et là, en fait, on se retrouve démunis, mais comme on n'accepte pas cette notion de mort, on se démène, et les seules solutions à ce moment-là qui restent quand on est débordé, dépassé à l'hôpital, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a effectivement des centaines de milliers de gens qui sont malades allongés dans la rue. Vous avez dit vous-même, c'est 0,5% finalement, ou 0,5 personnes à Paris qui sont contaminées chaque semaine sur 100 personnes.
Exactement. 0,3, quand il y a un taux d'incidence de 300, c'est 0,3.
On n'est pas dans une société de zombies, d'accord. Mais quand on n'est pas capable, en fait, après derrière, de gérer à l'hôpital, la seule solution qui reste quand on est diminué, effectivement, et qu'on refuse d'accepter ça, dans ces cas-là, c'est effectivement de confiner les gens. Et alors, je suis professionnel médical, d'un certain côté, je comprends aussi le corps médical dans les hôpitaux qui ne peut pas accepter déontologiquement de faire le tri dans les couloirs. Mais ça, c'est encore une fois, c'est nos sociétés actuelles qui veulent ça.
Bon, Paul,
ça va dans la droite lignée de ce
finalement,
de
vous n'êtes pas aussi éloigné l'un que l'autre. C'est ça qui est assez amusant, finalement. Non, Paul.
Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que dans les années 60-70, on était 3 milliards d'habitants sur Terre. Oui, maintenant, on est presque 8 milliards. Oui, et l'augmentation de la population, il est clair que plus il y a de monde, plus il y aura de gens qui seront contaminés, d'autres pas. Et c'est ça qui est grave. Et Pascal, je voulais vous dire un jour, si vous avez la possibilité, regardez un film, c'est Soleil Vert.
Bien sûr, mais je le connais, Soleil Vert.
Voilà, avec Charlton Heston.
Exactement, je le connais, ce film-là.
Eh bien, vous savez qu'il y a des moments, quand je regarde ce film et je le revisionne actuellement, je me pose des questions quand même, parce que naturellement, c'est grossi, mais en fin de compte, la population qui augmente constamment sur Terre, sans qu'on ait une réelle politique pour essayer quand même de contrôler tout ça, je ne sais pas où on va aller.
C'est un des problèmes, effectivement. Vous avez 70 ans, vous êtes né en 1950 à peu près.
Ouais.
Bon, vous êtes né dans un monde dans lequel il y avait 3 milliards, 2 milliards et demi. Vous allez mourir dans un monde où il y en aura quasiment 10. Donc, c'est effectivement pas le même monde. Ça, je suis d'accord avec vous. Merci Paul et Jérôme. Merci beaucoup. Une pub, à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
210 millions à gagner ce soir à l'euro million. Une probabilité sur 139 millions. Vous avez peut-être écouté Cyprien Sini ce matin. C'est l'un des sujets dont on pourra parler d'ici 14h30.
Et d'autres questions au 32-10. Êtes-vous favorable à un pass sanitaire pour retourner dans les lieux culturels et les restaurants? Emmanuel Macron tiendra une réunion avec des membres du gouvernement la semaine prochaine.
Nous devons préparer, organiser la réouverture des structures quand ce sera possible. Les musées, les salles de spectacle, les restaurants, les lieux de convivialité, les festivals évidemment. Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire.
Alors montrer par exemple le résultat d'un test PCR, la preuve que l'on est vacciné, ou utiliser une application sur votre téléphone pour indiquer que vous êtes passé dans un lieu public. Qu'en pensez-vous? Eh bien, pas question de me plier un test pour aller au musée ou d'indiquer si je vais plus tard dans un restaurant, s'énerve Patricia sur la page Facebook. Réaction de Sébastien, les gens ne veulent pas être tracés mais disent tout sur les réseaux sociaux. Allez comprendre, partagez-vous ces avis. 32-10. Hier, la mairie de Paris a proposé au gouvernement un confinement de 3 semaines dans la capitale pour ensuite tout rouvrir. Ce matin, on parlait plutôt d'une hypothèse parmi d'autres. Alors, qu'en est-il vraiment? Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, était l'invité de RTL Midi. Prône-t-il un reconfinement pour 3 semaines?
La réponse est non. C'est une hypothèse de travail qui dépend de la rapidité de l'aggravation ou pas de la situation sanitaire. Il n'a jamais été question, jamais, d'envisager cette mesure pour Paris seul. Ce serait complètement absurde. Et donc, c'est bien à l'échelle de la région Île-de-France, et c'est la compétence du préfet de police, qu'il faut réfléchir à ça.
Alors le reconfinement, vous dites stop ou encore 32-10. Connaissez-vous Monsieur Patate? Le jouet a été découvert dans la série de films Toy Story. Le fabricant Hasbro a annoncé qu'une famille patate non genrée, oui, sera commercialisée.
C'est essentiel comme sujet.
Voilà. Je pense. Pour promouvoir l'égalité des genres et inclusion, monsieur et madame patate existeront toujours, a tenu à rassurer le groupe dans un second communiqué.
Madame patate, madame patate, madame patate.
Ah, on aime madame patate. Vous aimez Madame Patate ?
Mais comme j'avais des enfants, j'ai joué à cela, effectivement, il y a quelques années. En revanche, le pass sanitaire, j'ai l'impression que c'est le sous-marin du passeport vaccinal. Hein, je ne saisis pas exactement la différence. Le mot change, comme toujours, parce que passeport vaccinal, ça fait peur. Pass sanitaire, c'est peut-être plus... ça passe peut-être plus facilement. Alors, je voulais vous parler de Fernandel. Fernandel, parce qu'on célèbre aujourd'hui les 50 ans de sa mort. Et je voulais vous faire écouter une chanson. Cette chanson, s'il l'interprétait aujourd'hui, évidemment, il serait au bûcher, Fernandel, parce que c'est une chanson, disons-le, ouvertement homophobe. On est à la fin des années 60, il est sur le plateau de Guilux, c'est le palmarès des chansons, et il va chanter une chanson qui s'appelle « On dit qu'il en est ». Et en fait, il se moque d'un homosexuel. Écoutez.
Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, pour le voir se recoudre en bouton. Un fil de travers, ça le chiffonne. N'empêche que derrière les gens font.
C'est toujours intéressant, effectivement, de revisiter parfois les archives. C'est vrai aussi pour La Cage aux Folles, hein. C'est vrai pour beaucoup de films ou même de comédies, mais aussi de sketchs de ces années-là où ouvertement on pouvait se moquer, caricaturer les homosexuels et les faire passer, en l'occurrence, souvent pour des folles. C'était ça, hein, des grandes folles, c'était ça. Généralement, la caricature, et on le voit dans La Cage aux Folles. Vous pourrez évidemment nous appeler sur Fernandel, nous donner votre avis sur le fait qu'il est un peu oublié, puis pourquoi pas proposer des chansons. Mais on va terminer la partie Covid avec Nathalie, qui est toujours avec nous, qui nous attend depuis quelques minutes, qui habite en Angleterre. Et ça va être intéressant d'écouter votre témoignage. Bonjour Nathalie.
Ah bonjour Mustapha.
Ah, vous êtes anglaise ou vous êtes française ?
Je suis française, mais ça fait 23 ans que je vis en Angleterre.
Mais c'est extraordinaire parce que vous avez l'accent anglais aujourd'hui.
Ben, je ne parle pas français très souvent.
Mais ça, c'est... Alors, vous êtes née en France ? Vous avez grandi en France ?
Je suis née en France.
C'est fou.
Je suis née en France. J'ai vécu ma scolarité en France. J'ai fait l'université en France. Et dès que j'ai fini l'université, je suis partie en Angleterre.
Et ben, vous parlez comme une Anglaise qui parlerait très bien le français. Figurez-vous, en tout cas.
Avec mes amis, j'ai toujours un accent. Ce n'est pas l'accent anglais, mais c'est l'accent étranger. Pas français.
Bon, quel est votre sentiment sur ce qui se passe en France, peut-être en parallèle à ce qui s'est passé chez vous il y a quelques semaines ?
Alors, en fait, chez nous, il y a quelques semaines. Donc, je fais partie d'une région où on a découvert la première variante anglaise. Donc, on a été confinés localement mi-décembre, nationalement le 4 janvier. En un mois et demi, on a eu plus de 50 000 morts. Par contre, maintenant, on vaccine. Hein. J'ai été une des premières à être vaccinée avec le vaccin. J'ai mis 2 doses. On est encore confinés jusqu'au mois de mars. Où au mois de mars, on aura le droit de sortir localement, mais on n'aura pas le droit de sortir de notre région ou de notre ville.
Vous êtes dans quelle ville, dans quelle région d'Angleterre ?
Je suis à Peterborough. Donc, c'est l'est de l'Angleterre.
Et là, vous êtes dans un confinement strict depuis le 4
oui.
janvier ?
Oui, c'est notre troisième.
Donc, depuis le 4 janvier, il n'y a pas eu de changement dans ce confinement ?
Non. Je suis en confinement depuis mi-décembre.
Oui, mais c'est quand même... Alors, c'est-à-dire que vous pouvez travailler ?
Je travaille à l'hôpital et je ne peux pas travailler du fait que je suis j'ai de l'asthme sévère et que ma capacité pulmonaire est de 75%, donc je suis à risque.
Mais pour expliquer ce confinement depuis le 4 janvier, les écoles sont fermées dans votre région ?
Tout est fermé. Si ce n'est pas des magasins essentiels, tout est fermé.
C'est un confinement donc infiniment plus strict que ce qui se passe en France, disons-le,
ah,
et
oui,
plus
on
long.
A pas le droit de, on n'a pas le droit de se réunir dans les maisons, même notre famille. J'ai droit à une bulle de parce que je suis célibataire. J'ai le droit à une bulle et je peux rencontrer la personne qu'une personne. Hein,
c'est quoi une bulle? Vous avez le droit à une bulle, ça veut dire quoi?
Si en fait la personne qu'on nomine pour pouvoir avoir un contact humain.
Non, c'est gay votre le confinement. Donc autrement, vous n'auriez pas le droit de contact humain, comme vous dites.
Je ne peux pas la rencontrer à l'intérieur, je suis obligée de la rencontrer à l'extérieur et il faut au moins 2 à 3 mètres de distance.
Ça facilite effectivement la proximité et les rapports.
Mais faut être honnête, je suis un peu sauvage de nos jours de toute façon, parce que je n'ai pas tant de contact humain. Par contre, d'un autre côté...
Mais ça ne vous pèse pas? Ça ne pèse pas sur la société britannique?
Si, ça pèse, mais on n'a pas le choix.
Mais les gens acceptent?
Plus que les Français, oui, on n'est pas... On n'a pas le choix. Si on veut que la société... Si on veut, notre but, c'est le 21 juin. Si on veut qu'on rouvre la société, on n'a pas le choix entre la vaccination, dont je suis, pour une fois, que je suis fière du gouvernement... Je suis fière de notre gouvernement pour la vaccination parce que c'est vrai que...
26%.
Ouais, on a plus...
Mais vous avez fait le Brexit, ce qui vous permet d'avoir des vaccins que vous avez pu acheter.
Non, oui, on a le Brexit aussi, mais il faut dire aussi qu'on utilise l'AstraZeneca, l'Oxford AstraZeneca, on l'utilise exactement. Je ne comprends pas pourquoi en Europe on a décidé soudainement que ce n'était pas un bon vaccin, que ça ne s'allait pas. Ici, on le donne même aux personnes âgées. J'ai une amie, elle a 75 ans, elle a eu le vaccin. Moi, parce que je suis une des premières, j'ai le Pfizer, parce que je travaille pour la santé publique et que j'étais une des premières à l'avoir. Et alors, au niveau... après le vaccin, j'ai eu des signes. J'ai fait une réaction allergique au vaccin, mais j'ai quand même fait mon deuxième vaccin.
D'accord, il y a eu effectivement parfois des effets secondaires. Quand est-ce que vous êtes déconfinée?
Alors, peut-être à la fin mars.
Enfin, c'est-à-dire que vous allez rester 3 mois, hein, les Anglais, entièrement confinés, 3 mois et demi sur ce régime-là, ce qui effectivement... et ça, c'est toute l'Angleterre. Hein, le régime qui est aujourd'hui à Peterborough, c'est valable à Londres et dans les grandes villes anglaises. Bon.
Ouais.
Alors effectivement, il y a un calendrier qu'on a pu voir. Le 17 mai, je crois, de mémoire, le restaurant rouvre. Et le 15 juin, toutes les mesures sont levées en Angleterre. Il y a une sorte de perspective. Mais c'est vrai que ce que vit l'Angleterre, et l'Allemagne aussi d'ailleurs, est plus rude que ce qui se fait aujourd'hui en France. Donc vous pensez qu'en fait, ce n'est pas la bonne solution si je veux...
Le confinement, c'est la meilleure solution.
Ça oui, pour vous. Vous pensez qu'en France, par exemple, on n'a pas les bonnes solutions.
On est passé de 50 000 cas par jour à on est à moins de 10 000 cas par jour. On a réduit notre mortalité aussi. Hier, il n'y a eu que 323 personnes qui sont mortes. Et en parlant de ça, l'auditeur d'avant qui travaillait dans la profession...
C'est beaucoup 323, c'est autant qu'en France. Hein. C'est beaucoup 323 après deux mois de confinement, si vous me permettez.
Hein. On en était à 1800 au départ.
Oui.
Par jour.
Bon ben merci Nathalie, en tout cas merci de ce témoignage, et c'est intéressant effectivement de savoir comment ça se parle, ça se passe en Angleterre, et ça met en perspective aussi ce qui se passe en France. Moi je suis quand même très très surpris de 3 mois de confinement aussi strict que cela.
Et le premier confinement était de 5 mois hein.
Pas strict.
Ah si, le premier confinement était strict.
Moi, j'ai pas le son. Alors, faudrait vérifier. J'ai pas l'impression que les bars aient été fermés, les pubs ont été fermés en Angleterre 5 mois consécutifs. Mais si vous le dites, je veux bien vous croire, Nathalie.
À partir de juillet, ils ont rouvert les pubs. Ils ont
ouvert, c'est ce qui me semblait aussi. Bon, merci en tout cas, et on marque une pause, et puis vous allez pouvoir réagir à ce qu'a dit Nathalie. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pour préciser ce que disait Nathalie, notre auditrice anglaise, le 8 mars, les écoles vont rouvrir. Mais seulement le 29 mars, qu'elle nous disait, la consigne de rester à la maison sera levée. Les rassemblements en extérieur limités à 6 personnes ou 2 foyers différents seront autorisés. C'est dans un mois. Les magasins non essentiels, coiffeurs, pubs, mais seulement en extérieur, et les musées devront en revanche attendre le 12 avril. Je ne savais pas qu'il y avait des coiffeurs en extérieur, mais manifestement ça se fait. Et les cinémas, hôtels, stades avec un maximum de 10 000 personnes suivront le 17 mai. et le 21 juin, ce qu'elle nous disait, tout est rouvert. Donc il y a un calendrier, mais à quel prix quand même, hein ? Les Anglais, ça a été drastique. Laurent.
Vous en avez parlé, Pascal, tout à l'heure dans l'émission. Fernandel, l'un des acteurs français les plus populaires, nous a quittés il y a 50 ans. Il a marqué de nombreuses générations avec la saga Don Camillo, La Vache et le Prisonnier, La Fille du Puisatier, un rire communicatif et puis...
de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort ?
Sans oublier ses chansons, l'une des plus célèbres.
Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie.
Quel souvenir gardez-vous de Fernandel ? Un homme gentil et drôle, nous dit Axel sur nos réseaux sociaux. Touchant, authentique pour Marie, le sourire, l'accent chaleureux, écrit Jacqueline. Il savait tout faire, il a bercé ma jeunesse, rajoute Gilles. Et pour Marion, il représente une autre époque. Alors venez témoigner au 3210 3210. Et puis ce soir... Oui ! Jackpot record de 210 millions d'euros est remis en jeu à l'euro-million. La somme n'a pas été remportée lors du dernier tirage mardi soir. Il fallait choisir les numéros 9, 18, 30, 39, 45 et les numéros étoiles 1 et 3. Donc si vous êtes l'euro gagnant ce soir, vous pourrez acheter le joueur de football du PSG, Kylian Mbappé, 185 millions d'euros.
Ah ouais ? Je donne une idée. Hein.
J'aurais peut-être autre chose à faire de ces 210 millions.
Nous en donner un petit peu par exemple. J'en offrir.
Engagez-vous.
J'aimerais
Pascal
bien
Pro.
Vous en donner, mais ça voudrait dire que vous êtes au courant. Et je pense que si vous gagnez 210 millions d'euros, je pense qu'il faut le dire à personne. Parce que il est possible que ça modifie le regard des autres sur vous, cher ami.
Ne vous inquiétez pas pour ça.
On ne dira rien. Hein.
Fernandel, une des raisons peut-être pour lesquelles il est moins présent, c'est que beaucoup de ses films sont en noir et blanc, même s'ils sont colorisés après. Mais, alors que Fernandel, que Louis de Funès est très présent, mais d'abord il a été un petit peu plus tard, hein, c'est 10 ans plus tard, Louis de Funès, il a fait des films jusqu'à 15 ans plus tard, c'est plus présent. Donc c'est peut-être une des raisons, mais on attend vos témoignages. Alexandra est avec nous, bonjour Alexandra, vous êtes présidente d'une association de commerçants à Paris, je sais que vous nous appelez régulièrement. Donc
bonjour
j'imagine,
Pascal Pro,
si
oui,
j'ai
bonjour
bien souvenir,
à vos
vous avez une boutique de bijoux.
Ah, moi j'ai une boutique de bijoux, accessoires, concept store de
exactement,
créateurs,
voilà.
Et dans le 11e, et je représente l'association Village Fédère.
Exactement, et régulièrement voilà. On vous a eu à ce micro.
Bon, et je vous en remercie Pascal.
Bon, alors d'abord à 18h pour vous, j'imagine que le chiffre d'affaires est en forte baisse puisque
alors,
les gens n'ont pas le temps pour acheter vos bijoux.
Bah, c'est-à-dire que les gens, on voit bien, dès 17h, ils courent dans la rue. Hein. Les enfants à les récupérer à l'école, les courses alimentaires, bien évidemment. Donc pour nous, déjà, à partir de 17h, 17h30, vous voyez, il n'y a plus personne. Et à 18h, donc nous sommes fermés. Donc déjà, donc, c'est un manque à gagner, bien évidemment.
Vous l'avez chiffré, ce manque à gagner ?
Pas encore. Je verrai ça début mars. Non, pas encore. Par contre, on a des jours où on ne voit pas grand monde. Et puis c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Alors, ça déjà depuis les crises successives, hein, attentats, gilets jaunes, grèves, etc. Mais là, ça se confirme de plus en plus. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Voilà.
Quand vous dites on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, on sait qu'il n'y a pas de mesures quand même prises
oui,
à Paris
que...
depuis quelques semaines quand même.
Oui, absolument.
Il y a un peu
que...
de visibilité, mais en revanche à 18h, on avait cette semaine un cordonnier qui nous disait qu'il a fait 11 euros, je crois, de chiffre d'affaires dans une journée.
Ben moi parce hier j'ai fait 12 euros.
Combien ?
Hier j'ai fait 12 euros, je vais vous expliquer, j'ai fait une première vente à 10 euros. Donc quelques cartes postales, et ensuite, un petit peu avant de fermer, j'ai fait une autre vente formidable à 2 euros. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires TTC hier de 12 euros. Vous avez bien entendu.
Pour combien d'heures ?
Ah bah, je suis arrivée à 10h le matin, et donc j'ai fermé à 18h, non-stop.
Mais c'est tout à fait exceptionnel ou ça arrive régulièrement ?
Ça peut arriver, on le remarque. Alors, pour la période actuelle, je précise que quand les gens sont dans l'attente de nouvelles annonces, on sent une très très nette contraction des comportements où les gens ont peur, les gens sont démoralisés et ça, il faut quand même l'entendre. Alors, je sais que sur votre antenne, vous en parlez très très souvent et je vous en remercie. Mais les gens sont dans un état moral absolument épouvantable. Et voyez la différence. Aujourd'hui, donc, pas de mesures annoncées sur Paris restrictives hier soir. Et ben, ce matin, j'avais des clientes qui avaient envie de se faire plaisir. une cliente, deux clientes, vous voyez.
Donc vous avez fait un chiffre d'affaires supérieur ce matin.
Oui, ce matin, voilà, j'ai fait deux, trois petites ventes sympathiques avec des clientes qui avaient envie de se faire plaisir ou de faire un cadeau à quelqu'un de leur entourage. Donc ça veut bien dire que c'est vraiment, les gens sont conditionnés par cette pression perpétuelle et par cette sensation tant d'asphyxie que d'être pris en otage. Être pris en otage tant par le gouvernement que par les médecins. J'avais eu l'occasion de le dire à l'antenne d'Éric Brunet il y a quelques semaines, le 24 janvier. C'est invraisemblable. On ne sait pas, nous, en tant que commerçants et indépendants, si le lendemain, on va pouvoir encore travailler.
Je comprends votre position, mais chacun a un avis sur cette pandémie. Mais est-ce que vous comprenez quand même les mesures ? Est-ce que vous vous dites...
Lesquelles ?
Ben, par exemple, quand on annonce un confinement le week-end ou quand on annoncerait, pourquoi pas, un confinement encore strict. Vous vous dites, c'est dur pour moi, c'est handicapant, je vais perdre de l'argent, mais je comprends parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire.
Non,
est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ?
Ben non, je vais vous dire très nettement, on ne peut pas être dans cet état d'esprit. D'abord parce qu'on voit bien que les chiffres sont quand même... on n'a pas eu une flambée, on n'est pas passé de 3000 personnes en réa à 10 000 personnes en 3 semaines. C'est pas vrai. Il y a des gens quand même qui sortent de réa un peu chaque jour. On est d'accord. Toutes les personnes contaminées ne sont pas forcément des personnes très malades et très gravement malades. Vous le rappelez tout à l'heure, vous avez dit à un de vos auditeurs, il n'y a pas le feu. Vous savez, vous avez un auditeur...
Mais bien sûr, il disait, il y a le feu. J'étais étonné qu'ils le disent comme ça.
Voilà, absolument. Par contre, on a un festival de propositions et de polémiques complètement hallucinantes. Alors, Monsieur Castex nous a sorti les stations de ski sans remontée mécanique. Là, on a Madame Hidalgo qui va nous sortir un truc complètement hallucinant. J'ai lu ce matin dans Le Parisien avec des mesures où on serait confiné strict. Enfin, dans sa proposition qui maintenant est devenue une hypothèse.
Mais
ce qui est intéressant, c'est quand même de voir tout le cheminement de la pensée et de ces sémantiques-là, parce que nous, ça nous met une pression psychologique qu'on ne peut plus supporter. Donc, ce serait strict, mais avec des mesures adaptées aux commerçants. Donc, en fait, si on essaye de lire entre les lignes, on aurait des commerces ouverts, mais sans clients.
C'est kafkaïen. Hein. Merci beaucoup Alexandra, on va marquer une pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Finalement, l'information la plus importante d'hier, elle n'est pas venue dans la conférence de presse de messieurs Véran et Castex, mais elle est venue dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui serait favorable à un pass sanitaire pour retourner dans les lieux culturels et les restaurants. Il a tenu une réunion avec des membres du gouvernement. En tout cas, il s'est exprimé là-dessus. Et la semaine prochaine, il tiendra une réunion avec les membres du gouvernement. Pour ou contre ce pass ? Jean-Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bah écoutez, moi je trouve que l'idée du pass sanitaire est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais avec une seule condition, c'est qu'on ait une politique de vaccination qui soit bien plus forte en France. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui comment les Anglais ou même les Israéliens ont mené une politique forte et qui sont dans les têtes de classement dans les pays avec le taux de pourcentage de population le plus vacciné, en France, on est quand même quasiment au 50e rang. Donc ça veut dire qu'il y a quand même
toute
un problème.
L'Union européenne, hein, c'est important de le dire.
Voilà, c'est ça. On est toujours avec une guerre de retard, de toute façon. Hein. Ça c'est systématique. Alors qu'eux, ils savent, comment dire, fédérer les énergies et les forces pour pouvoir lutter contre. Et ça permettrait d'avoir une autre vie culturelle en France. Vous voyez, par exemple, nous, dans les écoles de danse, ça nous permettrait, si on avait une politique de vaccination beaucoup plus forte, de reprendre très rapidement, alors qu'on nous a brutalement arrêté la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on parle de dialogue, il n'y en a pas de dialogue, puisque c'est tombé comme un couperet et personne n'en a parlé, alors qu'on n'avait aucun foyer, que les règles étaient là, les parents étaient contents, les enfants étaient épanouis, parce que le problème aussi aujourd'hui, si on n'a plus de vie culturelle, c'est que vous avez des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui sont perturbés par ces atermoiements de « on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme » et vous n'avez pas de continuité. Et c'est vrai que le pass sanitaire, si on avait une vraie politique de vaccination véritablement concrète et réaliste, serait extrêmement intéressante pour reprendre une vie à peu près normale le plus rapidement possible, puisque les chiffres montrent que la vaccination est particulièrement intéressante aussi pour éviter la pandémie et ainsi de suite, et pour développer des cas qui sont moins graves, parce que des cas, il y en aura bien évidemment. Ça fait partie malheureusement de la réalité, mais il va falloir distinguer les cas graves, les cas moins graves et ainsi de suite. Donc si vous avez beaucoup de gens contaminés malgré le vaccin mais qui développent des cas moins graves, ça c'est beaucoup plus intéressant pour essayer de retrouver une vie à peu près normale.
On va continuer sur le pass sanitaire après le flash de 14h. Le président de la République s'est exprimé hier au cours d'une conférence de presse à l'issue de la première journée d'une visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne et effectivement c'est lui qui a parlé de ce pass sanitaire qui ne sera pas un passeport vaccinal, a-t-il dit. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Benjamin Boucriche.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le maire de Nice interdit l'accès à plusieurs endroits de la ville. Décision prise à quelques heures du début d'un confinement le week-end. Une partie de la promenade des Anglais, le sentier du littoral et les plages seront donc fermées, ainsi que des marchés non alimentaires. Christian Estrosi, élu Les Républicains, veut éviter absolument des rassemblements trop massifs lors des balades autorisées par l'attestation. Le début du confinement commence ce soir à 18h. Le porte-parole du gouvernement demande à la mairie de Paris de ne pas jouer avec les nerfs des Français. Le premier adjoint à la maire, Anne Hidalgo, avait demandé hier un confinement à Paris avant de faire machine arrière ce matin. Emmanuel Grégoire considère désormais le confinement comme une simple hypothèse. La France appelle l'Arménie au calme, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit ce midi. La France souhaite que le dialogue puisse s'instaurer dans ce pays. Les éléments de la démocratie arménienne doivent tenir le coup, demande Jean-Yves Le Drian. L'Arménie est en pleine crise politique depuis hier. Le Premier ministre fragilisé dénonce un coup d'État militaire. Ce sera un choc pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023. France-Nouvelle-Zélande, rien de moins. Les Bleus affronteront les terribles All Blacks. Notez la date, le 8 septembre 2023. En plus, ce sera au Stade de France. La météo, petite baisse des températures cet après-midi. 9 degrés à Cherbourg, 10 à Brest, Alençon et à Lille, 13 à Biarritz, 15 à Marseille, jusqu'à 18 à Perpignan. Le ciel sera bleu du nord jusqu'à la Vendée en passant par la Bretagne, mais aussi le sud-est et les Alpes. Quelques nuages dans le sud-ouest et de la pluie de la Bourgogne jusqu'en Moselle. Les courses, elles viennent tout juste de se terminer à Vincennes pour le prix de Pont-l'Évêque. Voici les résultats provisoires. Le 11, le 5, le 8, le 6 et le 4. RTL 14h et 2 minutes. On retrouve les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci beaucoup, Benjamin.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jusqu'à 14h30, effectivement, le pass sanitaire, il va poser beaucoup de questions techniques, a dit le président de la République, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés. Et pour cela, il faut le préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement. Et le président l'a dit hier lors d'une visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne. Il a aussi ajouté, je sens qu'il y a beaucoup de confusion parfois sur ce sujet, le pass sanitaire ne sera pas uniquement lié à la vaccination et ce ne sera pas donc un passeport vaccinal. Alors, ça vous fait réagir et on est avec Pascal. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pro. Bonjour à tous vos auditeurs.
Vous habitez l'Ille-et-Vilaine.
Tout à fait. Notre belle Bretagne ensoleillée aujourd'hui.
Exactement, et qui est plutôt protégée parce qu'en Bretagne, je ne sais pas pourquoi, mais le virus circule moins.
La souche de base, le variant anglais apparemment a tendance à circuler beaucoup plus qu'ailleurs. Donc on va être prudent sur la circulation du virus et on va continuer à avoir les gestes barrières nécessaires pour éviter de l'attraper. Surtout à mon âge, 1964, ça vous dit peut-être quelque chose, il va falloir faire attention.
Nous sommes d'accord.
Non. Bon, moi, je suis tout à fait pour le passeport vaccinal.
Mais là, c'est le pass sanitaire. Parce que je ne sais pas si vous avez compris ce que c'est. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Bah, disons que c'est un peu confus entre le pass sanitaire, le passeport vaccinal, les tests PCR. Enfin, on mélange un petit peu tous les termes, mais je pense qu'effectivement, on pourrait avoir un mot qui pourrait être passeport ou.
Mais c'est surtout que s'il n'est pas lié uniquement à la vaccination.
Pour moi, déjà, ne serait-ce qu'à la base, un geste citoyen, parce que si avoir cette preuve qu'on a été vacciné contre le Covid, ça peut permettre à certains restaurateurs, à certains cinémas, à théâtres, enfin à certains lieux culturels de réouvrir et d'accueillir ces gens qui ont été vaccinés, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord pour ça, ne serait-ce que pour avoir ce côté citoyen, d'aider ceux qui souffrent aujourd'hui à recommencer à travailler presque normalement.
Mais je suis d'accord, mais on a du mal à savoir exactement ce qu'est ce pass sanitaire. Alors, je lance des pistes. Peut-être que, comme ce n'est pas lié à la vaccination, pourquoi ce n'est pas lié à la vaccination? Et là encore, je cite le président de la République, si on arrive à rouvrir certains lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes. Nous sommes d'accord. Donc, c'est un pass sanitaire, ça peut être un test PCR, par exemple. Tu rentres dans un musée, si tu as fait un test PCR il y a 2 ou 3 jours. Bon. Bah. Simplement, tu peux quand même être asymptomatique. Mais ça peut être ça. Ça, c'est une piste. Mais convenez que c'est pas forcément clair.
Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais c'est une piste qui me paraît quand même au moins une ouverture sur quelque chose qui peut permettre de reprendre une vie normale pour pas mal de gens. Moi, je vois, je suis toute la journée sur la route. Alors, je me plains pas, je suis pas malade. Même si je suis diabétique, je suis pas malade, j'ai de la chance. Mais ce que je vois, c'est que je travaille avec des gens du bâtiment tout le temps. Bah, ces gens-là, on en a marre de manger dehors. Ces gens-là, même moi le premier, j'en ai marre de manger dans ma voiture. J'en ai marre de ne pouvoir, de pas pouvoir rentrer dans un bar pour boire un café.
Donc, vous seriez plutôt pour... Par exemple, si on demandait un test PCR pour entrer dans un restaurant, un test de 24 heures ou 48 heures, vous diriez OK.
Mais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. J'ai mon fils qui passait un concours régional d'apprenti. J'ai fait, sans qu'on me le demande, je suis allé faire un test PCR 2 jours avant pour pouvoir l'accompagner et pour pouvoir aller le chercher à la sortie de son concours. J'ai pas attendu qu'on me demande de faire un test. J'ai trouvé ça tout à fait normal de le faire. Ça me paraît pourtant d'une simplicité. En plus, je veux dire, ça fait quoi un coton-tige dans le nez? Ça a jamais tué personne. Ça me paraît citoyen de faire ça.
Oui, non, mais moi je suis d'accord avec vous, je peux vous rejoindre effectivement. Simplement, il faut le définir, ce passe sanitaire. Il faut le définir.
Ce que je comprends pas, c'est les gens qui, avant même qu'on ait défini quelque chose, vous disent non, c'est une atteinte à la liberté. Mais une atteinte à la liberté de quoi? Des passeports, on en a plein pour tout. Quand on veut aller en Guyane, il faut avoir une preuve de vaccin. Quand on veut aller dans certains pays, il faut avoir une preuve d'un autre vaccin. Quand on a une voiture, il faut avoir la preuve que la voiture, elle a un passeport. La voiture, elle a une vignette critère. C'est un passeport comme quoi elle a le droit de circuler en ville. Je veux dire, on en a plein des passeports comme ça. Et pourquoi celui-ci, ça choque autant de monde? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Assez certains pensent que c'est une atteinte aux libertés. Mais là où vous avez raison, et je vous rejoins, moi je suis favorable. Si on me dit, tu peux rentrer dans un restaurant, ou les restaurants rouvrent, plus exactement, les théâtres rouvrent, si on y entre avec un test PCR qui a 24 heures ou 48 heures, mais je vous assure, je signe tout de suite.
Mais bien sûr.
Je signe tout de suite.
Mais moi, pareil, je signe tout de suite. Si
et effectivement, ceux qui n'ont pas le test, ils ne rentrent pas. Bah, c'est la vie. Mais je préfère ça à ce que ce soit fermé. Je suis d'accord avec vous.
Mais voilà, et puis en attendant, je pense que les restaurateurs eux, attendent ça.
Mais je suis d'accord.
Les restaurateurs, les premiers vont le faire. Leurs employés, les premiers vont le faire. Pour l'instant, on a le petit côté bien français, le nombrilisme. On ne veut pas toucher à nos libertés, on ne veut pas toucher à ci, on ne veut pas toucher à ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être nombriliste. Et puis, il faut parler un peu aux gens. Quand j'entends les gens à la télé, quand on leur pose des questions, qu'est-ce que vous attendez le plus? On vous répond, la réouverture des restaurants, des théâtres et des cinémas. Et en même temps, ces gens-là ne veulent pas faire un test PCR. Il faut arrêter de marcher sur la tête.
Non, parce que c'est difficile, sans doute, à mettre en place. En même temps que je disais ça, je me dis, qui va vérifier? C'est le restaurateur qui va vérifier. Mais si tu es avec Camille, avec le restaurateur, tu crois qu'il va te demander, vous croyez qu'il va vous demander un test? Non, évidemment, il vous fera rentrer parce qu'il vous connaît. Mais et vous n'allez pas mettre un policier dans chaque bar ou chaque restaurant. Mais bon.
Mais Pascal Pro, après, effectivement, alors où les gens sont totalement inconscients, mais moi, le premier, si j'ai un test PCR, j'arrive dans un restaurant, j'attends pas qu'on me le demande, je le sors et je le montre.
Oui, mais bon, merci Pascal, en tout cas, vraiment, merci. Pascal, vous écoutez le surf le matin de Cyprien Sini?
Oui, j'écoute RTL toute la journée en voiture, jusqu'à 18h à l'heure du couvre-feu, la fin des grosses têtes.
D'accord, ben là, il y a un petit peu d'écho, je ne sais pas où vous parlez. Figurez-vous.
Excusez-moi, je suis dehors, excusez-moi.
Mais je vous en prie. Mais Cyprien Sini vient souvent nous visiter le vendredi, parce qu'il fait l'émission le vendredi. Oh, on est fait le monde. Et il vient d'entrer, Cyprien Sini. J'ai appris quand même que vous vouliez acheter l'OM si vous gagnez les 210 millions d'euros.
Mais ça va
en tout cas, il y avait quelqu'un qui disait ça ce matin dans votre sort. Comment ça va, Cyprien?
Très bien, merci. Et vous?
Bah écoutez, moi j'aime bien quand vous venez nous voir. C'est quoi le programme?
Alors,
ce soir,
on défait le monde agricole ce soir. On va faire comme si on était au salon de l'agriculture, mais
bonne idée.
Il n'y a pas de salon de l'agriculture.
Bonne idée, parce que ça passionne les gens, le monde agricole. Vous avez vu le documentaire sur France 2?
Ça a cartonné.
Devant TF1. C'est très rare. Et vous avez vu le film de Guillaume Canet qui avait fait un malheur.
Formidable, avec Guillaume Canet.
Oui, mais qui a fait un malheur en dehors de Paris, souvent.
Oui,
les bobos. Alors eux, qui parlent écologie et ça, ils vont pas voir ce genre de film.
Bah justement, on se posera la question. Fantasme ou réalité, les nouveaux agriculteurs. Oula, les nouveaux agriculteurs, les néo-agriculteurs.
Les néo-agriculteurs, voilà, c'est quoi?
Fantasme ou réalité, c'est est-ce qu'il va y avoir un renouvellement ou pas de génération? Vous savez que bientôt 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Et il y aura personne pour les remplacer. Qui va nous nourrir?
Vous savez que nous célébrons aujourd'hui la mort d'un de vos compatriotes.
Absolument.
Fernandel, vous aimez bien?
Ben, formidable, Fernandel, mais je vais pas vous chanter du Fernandel.
Il est né à Marseille.
Ben, évidemment qu'il est né
à Marseille. T'es en train de boire de Boulogne?
Je ne ferai pas d'imitation de Fernandez. Attendez, je suis censé venir faire la promo de mon émission de ce soir.
Mais oui, bah écoutez,
voilà,
alors...
donc on va parler du monde agricole dans toute sa
splendeur. J'ai bien compris. Eh ben, ça va être formidable. Il y aura qui avec vous?
Ah ben, il y aura Brice Dugénie, Laurent Tessier, et ce sera avec Marie Mollet aussi. Et il y aura Vincent Parisot à la place de Stéphane Carpentier.
Il est en vacances.
Ouais. Et il se repose.
Il a raison, faut en prendre des vacances de temps en temps. 14h10, et on n'a pas entendu de Fernandel depuis tout à l'heure, donc au retour de pub, on se met un petit Fernandel. Restez avec nous, tiens, Cyprien.
On l'a entendu dans votre voix.
Est-ce qu'on a Ignace, la chanson?
Mais on l'a chanté, on l'a mis Ignace déjà. Je m'appelle le Simplet.
On m'appelle Simplet.
Ce sera après la pub, on l'a dit.
J'avais un chien qui s'appelait Ignace en hommage à la chanson de Fernandez.
Est-ce que je peux vous raconter une histoire, pardon, puisque vous parlez de chien?
Après la pub.
Je vous jure que c'est vrai. Et ben, je vous le dis après la pub. Une vraie, oui, bien sûr, une histoire de chien tout à fait étonnante. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On m'appelle Simplet.
C'était insoutenable cette attente d'anecdote.
Ouais. Le Spoonz également. Le Spoonz, c'est très très bien. Le
J'attends l'histoire de votre chien.
Et ben, je vous jure que c'est vrai, vous n'allez pas me croire. Je suis dans le Champ de Mars, je me balade et j'entends quelqu'un qui crie Ausweis. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, c'était le nom de son chien. Donc je vais vers la dame, c'était un petit chien. Je lui dis, mais pourquoi vous l'avez appelé Ausweis? Elle me dit, oui, parce que je l'ai eu pendant le confinement. Le premier confinement, ouais. Et c'était la seule manière que j'avais de sortir, donc on l'a appelé Ausweis. Donc il y a un chien,
d'accord,
en France, parce qu'Ausweis c'était un, oui, laissez-passer évidemment, ouais, pendant, ouais, la guerre.
Donc il y a un chien pour passer. Ouais,
exactement. Guerre. Donc il y a un chien en France qui s'appelle Ausweis. C'est fou quand même.
C'est drôle.
Bah c'est, oui.
Je suis tombé,
c'est...
sur un chien une fois qui s'appelait Jean-Philippe. J'ai trouvé ça très intéressant.
Jean-Philippe.
Ouais, ouais, je vous jure.
Bon, 14h13. Est-ce que vous voulez parler de Monsieur Patate? Ouais. Que dites-vous?
Ah oui. On dirait un concours d'anecdotes, cette, ouais, histoire. Vous auriez pu terminer en disant vrai ou faux?
Non, ouais, mais
comme McFly et Carlito, bon, qui font des concours d'anecdotes.
Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire Monsieur Patate?
Alors, ça plaît beaucoup à votre assistant Laurent Tessier, votre bras droit, là. Depuis ce matin, il m'appelle pour parler de cette histoire.
C'est pas mon assistant.
Bah, c'est votre bras droit, si, je suis désolé.
C'est plus que ça.
Bah, c'est votre
Monsieur
bras droit.
Patate, fini la marque Monsieur Patate, jouet culte du groupe Hasbro. Le fabricant a annoncé jeudi qu'il allait commercialiser une famille patate non genrée. En fait, il y a aussi la famille patate. Donc, c'est pas fini la marque, simplement. Il y aura une deuxième famille patate. C'est un sujet quand même essentiel. Seule la marque et le logo perdront l'attribut Monsieur. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent même pas Monsieur Patate, mais puisque... Ben non, tout le monde connaît pas Monsieur Patate. C'est des jouets introduits en 1952 et qui ont été mis en scène dans la série de films Toy Story. Et ça fait partie des incontournables des familles américaines. À partir d'une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer des personnages en leur ajoutant des attributs comme des yeux, avec sourcils maquillés pour Madame Patate, par exemple.
Mais c'est pour ça que ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de Monsieur et Madame Patate, c'est vous-même qui décidez du genre de la patate. Parce que c'est une patate nue à la base, et après vous collez des instruments dessus. Vous voyez,
une bouche avec rouge à lèvres pour madame, une moustache pour monsieur, chaussures à talons ou pas. Bon, Louane, c'est vraiment...
Parce que vous pouvez par exemple mettre la bouche avec rouge à lèvres et la moustache en même temps.
Louana est avec nous. Bonjour Louana, vous êtes étudiante.
Oui,
merci,
bonjour.
Merci Cyprien ce soir. Louana, qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque?
Moi je pense que c'est une bonne initiative. Enfin, je vois rien de négatif par rapport à ça, dans le sens où, bah, déjà, enfin, je pense que les enfants de base, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec les jouets, c'est-à-dire qu'ils avaient la patate, ils mélangeaient un peu tout. Enfin, moi je me souviens quand j'étais petite, je mélangeais tout, etc. Mais là, le fait de pas avoir de patate genrée, on va dire, bah, ça va permettre de pas donner de modèle forcément aux enfants et qu'ils puissent jouer un peu comme ils veulent, mais surtout ça va permettre, je pense, au-delà de d'évoluer vers la question de la déconstruction du genre, donc homme et femme, ça va permettre dans un premier temps de déconstruire les stéréotypes de genre avec les femmes hyper maquillées, etc., et les hommes qui ont des attributs, enfin, comme la moustache ou quoi, alors que...
Bah, c'est vrai que c'est plus fréquent de voir des hommes avec de la moustache que des femmes, disons-le, Louana.
Bah oui, mais par exemple, il y a des hommes qui n'ont pas du tout de moustache et des femmes qui peuvent en avoir parce que on a
des femmes qui ont de la moustache.
Bah oui, mais il y en a, tout le monde a des
c'est pas fréquent,
etc. Ça dépend des taux d'hormones, etc. Enfin.
Ah oui. Bon, Louana, on va sécuriser la, si j'ose dire, la liaison, parce qu'on vous entend pas très bien, mais c'est passionnant. Et puis moi, j'aime bien avoir des gens de 20 ans. parce qu'effectivement, vous êtes aussi le reflet d'une époque. C'est des questions qu'on ne se posait pas forcément lorsque j'avais 20 ans. On ne voyait pas les choses comme ça. Mais c'est toujours intéressant donc, d'écouter forcément ce que disent les plus jeunes. On sécurise et puis on revient tout de suite.
Vous dînez quoi le vendredi déjà, Pascal ?
Je dîne... Ah ben non, ce soir, pourquoi ?
Bah,
non,
j'ai l'impression que vous mangez des pommes de terre le vendredi et je craignais qu'elles aient un autre goût à cause de cette histoire.
Non, 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 ce soir c'est différent. J'ai un petit programme différent. Je ne peux pas vous le dire, mais j'ai un programme différent. On rappelle Louana, c'est intéressant ce qu'elle dit, Louana. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc Louana est avec nous. Dans un premier communiqué, Hasbro indiquait vouloir désormais s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la marque et le logo de Monsieur Tête de Patate avec l'intention de promouvoir égalité des genres et inclusion. On en est là quand même aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. C'est la société Hasbro. Et Louana, ça vous convient ?
Ben oui, je pense que c'est cool, c'est une évolution, il n'y a aucun point négatif, ça va permettre à tout le monde de jouer comme il ou elle veut. Et voilà, enfin, pour moi, je trouve que c'est une avancée. Je pense que c'est surtout la marque qui s'aligne un peu sur l'évolution de la société et aussi comment les enfants jouent. Et du coup, je trouve ça plutôt cool et positif.
Eh ben, merci beaucoup, Louana. On parle de Fernandel.
Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, félicitations.
Bon, on l'a beaucoup entendu là, hein, cette émission, cette chanson depuis 13h. Bruno est avec nous, bonjour Bruno.
Bonjour.
Et vous avez 56 ans, donc vous n'avez pas connu Fernandel, vous l'avez connu enfant hein, d'une certaine manière.
Oui, j'ai grandi avec Fernandel, j'ai toujours eu Fernandel autour de moi quoi.
Quel est le film que vous préférez ?
Ben, mon film préféré, j'aime bien Raphaël le Tatoué.
Raphaël le Tatoué, effectivement, qui est un film dans la première période, je pense, de Fernandel. Hein.
Oui, les premiers, c'était La Gaîté de l'Escadron, Les Dégourdis de la 11e avec Jean Gabin.
Il y a François Ier également. Il a tellement tourné, il tournait 5 films par an, Fernandel. Ben, mais il y a plusieurs périodes. Qu'est-ce que vous aimez bien chez lui
à l'époque.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Ben moi j'aimais bien, c'était son physique, c'était sa façon de jouer. Il était aussi dans le cadre d'émotions comme de rire. Il était génial quoi.
Est-ce que vous lui trouvez des successeurs aujourd'hui ?
Non, j'en trouve pas des successeurs. J'ai connu un certain, enfin vous avez dû le connaître aussi, qui a voulu jouer le Spoonf.
Oui.
Alors là, ça m'a mis en
c'était Smaïn qui avait joué le Spoonf. Le Spoonf.
C'était Smaïn.
Ouais, c'était pas mal d'ailleurs. C'était.
Non,
c'était...
Non. Moi, je veux pas quand on touche. Non, je veux pas.
Donc, je regarde la liste des films de Fernandez. Et il en tournait énormément. Le premier, c'est 1931. Hein, donc, vous voyez.
Ouais. Cœur de coq aussi, un film que je suis sûr qu'on se rappelle plus beaucoup, quoi.
Et le dernier, c'est Don Camillo et les contestateurs de Christian Jacques. Il y avait également Heureux fini, comme Ulysse en 70.
Voilà.
La Bourse et la vie, Don Camillo en Russie, L'âge ingrat de Gilles Grangier, Relaxe-toi chérie, La cuisine au beurre. Je crois qu'il y a Pierre qui est là également. Et Pierre, l'autre jour, il nous a appelé parce qu'il chantait Traîner. Et là, aujourd'hui, il veut chanter Fernandel. Bonjour Pierre.
Moi, je connais ses chansons, c'est sûr.
Eh bien, écoutez, rebonjour Monsieur Pro.
Bonjour Pierre.
Écoutez, vous m'avez tellement vanté l'accent grenoblois la semaine dernière que je ne pouvais pas vous laisser plus d'une semaine sans l'écouter. Hein. Mais ceci étant, quand j'ai appelé, là, je suis tombé sur un interlocuteur charmant, mais charmant, hein, non pas comme le chantait Fernandel. Hein. Non, lui, il n'a rien de ça. Hein. Moi, je m'en suis aperçu, parce que vous savez, dans les années 60, moi, j'en avais des copains comme ça, charmants, d'ailleurs. Et quand ils s'apercevaient que vous ne les intéressiez pas, ils vous laissaient tranquille. Hein.
Oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, que Fernandel n'était pas sympa ?
Mais bien sûr que si, mais quand vous avez fait son truc de là, quand il chante ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, l'interlocuteur que j'ai eu, il n'a rien de ça. Lui, on sent que c'est un homme viril, je ne sais pas comment il s'appelait, mais c'était très bien. Et les amis comme ça, vous savez, moi, dans les années 60, je leur disais, écoutez, moi, vous faites bien ce que vous voulez, tout ce qui rentre dans votre... ne rentre pas dans le mien.
Non, mais je suis d'accord, Pierre, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre, et puis je ne suis pas sûr que ce soit non plus exactement ce que j'ai envie d'entendre. Je pensais que vous alliez me chanter une petite chanson.
Ça, c'était parce que vous aviez proposé de chanter Félicie.
Eh bien, chantez, voilà, ça va nous réconcilier.
Moi, si vous voulez, on le chante ensemble.
Non, allez, c'est vous le chef. Allez-y.
Oh, non, 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 mais on peut chanter un refrain chacun. Bon.
Non, 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 je vous laisse, je vous laisse
alors,
vous.
Alors, j'y vais. Alors, c'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de sa Bourgogne et moi, j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnaient, les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi.
Bah écoutez, bravo, j'allais dire si Fernandel, voulez, bravo, bravo Pierre.
Mais j'aurais voulu que vous chantiez avec
il
moi.
Faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi.
Ça, c'est sans doute la chanson la plus célèbre. Il y en a une autre aussi, c'est Les gens riaient. Elle est très jolie, cette, parce qu'elle est tendre,
ah,
cette chanson. Les gens riaient.
Ah oui, bien, ah, celle-là, elle est formidable.
Et le tango corse, je voulais qu'on écoute. C'est extraordinaire, le tango corse.
Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas.
Bon, le débrief, c'est maintenant avec l'ami Laurent Tessier. Il est 14h23. Merci Pierre, merci Bruno, merci à tous.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
20 départements sous surveillance renforcée. Fallait-il prendre des mesures dès maintenant, mettre en place un confinement local dans d'autres villes plutôt que d'attendre une semaine? Erwan nous a donné son avis au 32-10.
On se dit aujourd'hui, le feu est là et on laisse le feu. Vous savez très bien que l'instant T, il est quand même dramatique. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une troisième vague. Et aujourd'hui, le personnel de la santé, ils sont épuisés.
Paul, lui, est sur une autre ligne.
Moi, je suis un anti-confinement parce qu'on voit que ça sert à rien. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu jouer aux sorciers actuellement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas capable de soigner les gens. Ça, c'est grave.
Et dans Les auditeurs ont la parole, nous vous faisons voyager. Nathalie est française, mais my God, je suis admirative de son accent.
Ah, je suis française, mais ça fait 23 ans que je vis en Angleterre.
Mais c'est extraordinaire parce que vous avez l'accent anglais aujourd'hui.
Bah, je parle pas français très souvent. J'ai fait l'université en France et dès que j'ai fini l'université, je suis partie en Angleterre.
Alors, je vous propose un petit stage en Angleterre, Pascal.
Madame Flavie Flamand himself, herself.
Ah oui, herself. Et puis au début de l'émission, vous nous avez fait une promesse, Pascal.
Si vous êtes sage, je vous imiterai Fernandel dans Félicie aussi.
Ah, excellent, nous sommes des anges, allez-y, lancez-vous.
En rentrant du bois de Boulogne, je rencontrerai Félicie.
Très bonne imitation. Et vous, Greg Caranoni, imitez donc Fernandel.
Ça m'étonne d'ailleurs, en ayant Elias, que vous n'ayez pas fait Ignace.
Ah bah Elias, par exemple.
Mais Elias, je sais faire une imitation. Mais c'est...
Vous imitez
bon, ouais, aussi mal que vous, je pense.
Elias, écoutez.
Elias. C'est un peu.
Et puis ce soir, charme. Peut-être que nous serons riches. Aïe, 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 210 millions d'euros à gagner à l'euro million et peut-être la générosité de Pascal Praud en cas de succès.
J'aimerais
Pascal
bien Praud. Vous en donner, mais ça voudrait dire que vous êtes au courant. Et je pense que si vous gagnez 210 millions d'euros... je pense qu'il faut le dire à personne.
Mais lâchez-vous, Pascal Praud, ami, après ce que vous dites sur moi.
Alors ça plaît beaucoup à votre assistant Laurent Tessier, à votre bras droit, là. Depuis ce matin, il m'appelle pour parler de cette histoire.
C'est pas mon assistant.
Ben, c'est votre bras droit, si, je suis désolé.
C'est plus que ça.
Et plus que ça. Donc donnez plus d'argent, Pascal Praud. Et sachez-le, si vous êtes poisson comme signe astrologique, vous avez le plus de chances de gagner. Oui,
non.
Plus d'un joueur sur 10 qui a remporté le gros lot était poisson, était
c'est
de ceci.
Vrai.
Et oui. Bon, il est 14h26, il est bientôt l'heure d'en effet pour s'entendre.
Il y a la Daronne qui vient. Rentrer dans le studio.
Ah, quand même, Daronne, Flavie, vous appréciez ?
L'heure de Flavie Flamand, bonjour.
La Daronne.
Oui, la Daronne.
Appelez-moi la Daronne, s'il vous plaît.
Eh bien, appelons-vous la Daronne. Terminons avec l'anecdote du jour de Cyprien Sini.
Oui, je suis tombé sur un chien une fois que ça s'appelait Jean-Philippe. J'ai trouvé ça très intéressant.
Jean-Philippe.
Oui, je vous jure.
Merci à vous, Cyprien Sini. On vous retrouve ce soir dans Défait le Monde. Allez, un peu de promo, ça fait pas de mal. Le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui ne plaît pas au Covid-19 et ses amis les variants.
Je te suis.
savez qui chantait ça?
Jean-Pierre François.
Et vous savez qui était Jean-Pierre François?
Ancien joueur de football à Saint-Etienne.
De l'info pour briller.
Voilà.
Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.